France Musique. Les grands entretiens, Jean-Baptiste Urbain. Je m'appelle Emmanuel Bertrand, je suis né le 5 novembre 1973 à Firminy dans la Loire et je suis musicienne, violoncelliste.
Emmanuel Bertrand, vous nous avez raconté hier votre découverte du théâtre musical. Après le Bloc 15, en 2011, vous vous lancez dans le violoncelle de guerre, ce violoncelle de Maurice Maréchal pendant la Première Guerre mondiale. Maurice Maréchal, le professeur de votre professeur à Lyon, Jean Deplace.
Jean était le dernier élève de Maurice Maréchal. Donc, en fait, il m'avait parlé de lui depuis le début de cette rencontre. Donc, Maréchal, voilà, il faisait partie de ma vie, sans forcément que j'en ai mesuré l'importance, mais ce violoncelle de guerre et son parcours, j'en avais connaissance. Parce que Maréchal s'était fait faire un violoncelle dans les tranchées, par deux poilus qui étaient menuisiers, peintres, enfin qui étaient des artisans, qui n'étaient absolument pas luthiers. Et en fait, Jean Deplace m'a raconté ce qui est complètement ahurissant. C'est-à-dire que Maréchal, il sortait du conservatoire. Il avait toujours joué du violoncelle, des heures durant. Et puis tout à coup, il se retrouve à quelques pas du front et il n'a pas d'instrument et il y a des semaines entières à tuer. Et il est dévoré par l'ennui. C'est un manque terrible pour lui. Donc, en fait, il avait tellement parlé de violoncelle à ses copains que finalement, il y a deux d'entre eux, Neyen et Plick, qui lui ont dit « Mais écoute, tu vas arrêter de nous en parler, on va en faire un et comme ça, tu joueras et ce sera beaucoup plus agréable pour nous. » Et c'est ce qu'ils ont fait, avec les moyens du bord, avec des morceaux de porte, avec des caisses de munitions qui étaient laissées là dans les tranchées. Et puis Maurice Maréchal s'est fait envoyer des cordes, un chevalet, un sillet, enfin, les quelques pièces qu'il ne pouvait pas fabriquer sur place, par sa maman qui était à Dijon. Et cet instrument, parce qu'il y a eu énormément d'instruments de fortune fabriqués dans les tranchées, puis toutes sortes d'objets, mais il y a ce magnifique ouvrage de Claude Ribouillot qui montre des instruments faits dans des boîtes de conserve, dans des gourdes, dans des boîtes de cigares. Des instruments du niveau de celui-ci, j'en connais pas un seul autre qui soit aussi beau, enfin, qui ait un vrai son. En tout cas, ce son-là, c'était un rêve pour moi de l'entendre depuis que je connaissais cette histoire. Et puis, Emmanuel Londré m'a proposé une carte blanche à la Cité de la Musique. Et je savais que le violoncelle de Maréchal était gardé au musée de la musique. Donc lorsqu'Emmanuel Londré m'a fait cette proposition, je lui ai dit tout de suite, eh bien, je voudrais rendre hommage à Maréchal et jouer le poilu. C'est comme ça que Maréchal l'appelait, qui est dans la réserve.
Il l'a joué, d'ailleurs, pendant la Première Guerre mondiale.
Il le jouait beaucoup, absolument, et même après, et notamment quand il partait en tournée aux États-Unis, et après avoir joué un concerto, il ramenait le poilu et il faisait un bis dessus. Et les Américains étaient très touchés, d'ailleurs, par cette histoire. Donc il l'a joué, et je savais qu'il y tenait énormément. Il disait à sa femme qu'il y tenait plus qu'à un Stradivarius. Et c'est la seule chose de tout ce qu'il avait, le seul objet et le seul instrument aussi pour lequel il a passé des consignes de son vivant en disant « Après ma mort, je veux que cet instrument soit légué au musée du conservatoire. » Étant dans le fond du conservatoire, à la création du musée de la musique, est arrivé dans le fond du musée de la musique. Mais il n'était pas visible, il était dans la réserve. Lorsque je suis allée le voir la première fois, je pense qu'on ne l'avait pas visité depuis les années 60. Enfin, tout le monde savait qu'il était là, mais voilà, il sommeillait sur une étagère. Donc ça a été un moment très, très fort d'avoir cet instrument dans les mains pour la première fois. Et puis aussi un peu triste parce que j'ai tout de suite compris qu'il était trop abîmé pour pouvoir être joué. Il y a des fractures importantes. Enfin, ça se voit pas, hein, quand on voit l'instrument. Il a l'air en bon état, mais on peut pas retendre les cordes dessus. Il supporterait pas la pression. Et si on le restaurait, on lui enlèverait sa dimension historique. Il y aurait trop de travaux à faire. Donc je suis ressortie de là en me disant, ben en fait, le réparer, ça reviendrait presque à en faire un autre. Et 2 jours plus tard, je voyais Jean-Louis Prochasson, mon luthier, qui venait à un de mes concerts. Je lui racontais cette histoire un peu, voilà, assez déçu, évidemment. Et Jean-Louis m'a tout de suite dit, mais écoute, si tu veux, je t'en fais un. Je te fais une copie. Magnifique. Alors là, j'ai pas attendu qu'il me le répète. C'était inespéré pour moi. Et après ça, j'ai rencontré Christian Leblé qui faisait un DVD pour Harmonia Mundi qui devait accompagner mon disque Le violoncelle parle. Et Christian s'est aussi passionné pour cette histoire et m'a demandé de lui raconter et a décidé de faire un film qu'il a réalisé pour France 3 qui s'intitule Le violoncelle des tranchées sur la création de l'instrument. Donc, il y a eu quelques facettes comme ça, très complémentaires autour de cet hommage. Et puis, le fait que, parce que du coup, j'ai pris les textes de Maréchal. On avait les carnets de guerre qui sont à la Bibliothèque nationale, qui avaient été légués par sa fille et puis qui avaient été édités aussi. Et tous ces éléments-là permettaient vraiment de créer un programme construit, intéressant, où là aussi, on découvre que la musique a existé dans un contexte assez inattendu. Et puis, au fond, c'est aussi l'occasion de se questionner pour nous musiciens sur pourquoi est-ce qu'on est musicien, qu'est-ce que ça nous apporte vraiment quand on mesure ces destins-là, que ce soit celui d'Anita Lasker ou celui de Maurice Maréchal, pour qui le fait de jouer, c'était parfois la dernière chose qui les rattachait à la vie. Maréchal, sans doute un peu moins, parce que il n'était pas dans un camp d'extermination, mais il a vécu des moments terribles. Et la musique, voilà, c'était son évasion. Et c'était aussi son identité. C'est quelque chose qui se recoupe souvent, hein, cette notion d'identité par la musique. Le fait que tant qu'on est musicien, on reste soi-même dans des circonstances où la personnalité est complètement effacée par l'uniforme ou la détention, ou qu'on n'est plus qu'un numéro. Voilà, ceux qui étaient musiciens restaient quelqu'un.
Tu le sais bien, dans le boyau roi, oui, tout droit. Voici Neuville. Là, ce petit pont qui passe au-dessus du boyau, c'est la route.
Sans doute est-ce justice de haïr l'ennemi, mais par le sang qui coule, sont lavées toutes dettes.
Ce violoncelle de guerre dans le fac-similé, juste là, à côté de nous, dans ce salon du Perreux-sur-Marne, avec ce spectacle, le violoncelle de guerre que vous avez donné avec Didier Sandre, avec Christophe Malavoie, vous continuez d'ailleurs à donner. Emmanuel Bertrand, ce violoncelle de guerre et cette histoire-là, comment vous a-t-elle changé? Vous a-t-elle changé?
Sans doute. Je pense que chaque nouvelle expérience, chaque nouveau projet, chaque nouvelle œuvre nous façonne davantage. Je pense que ce projet-là, comme le bloc 15, c'est assez semblable, m'ont ramené à un essentiel, en fait, précisément à la force et à la dimension fondamentale de la musique. En fait, c'est probablement pour ça qu'on fait tant d'efforts depuis qu'on est tout petit. Parfois, je discute de ça avec mes élèves aussi, de leur dire, mais voilà, quand on a fait tant d'efforts depuis 10 ans de travailler chaque jour, c'est bien qu'il y a quelque chose qui nous a mordu dès le départ. Et c'est ce quelque chose qu'il faut continuer à alimenter chaque jour et entretenir, parce que le jour où on le perd, alors on n'a plus de raison d'être musicien. Et puis après, sur un plan vraiment plus personnel, ben je pense que Maréchal, au moment où j'ai monté ce projet, j'étais très attristé quand je discutais avec mes étudiants, par exemple, même au CNSM, au Conservatoire supérieur, Maréchal, ça leur disait vraiment pas grand-chose. C'était un nom de plus sur une liste de professeurs qui avaient exercé au Conservatoire. Mais il était vraiment en train de tomber dans l'oubli. Alors certes, les commémorations ont remis un peu d'actualité, et je pense qu'on se souvient bien davantage, mais pour moi, à titre personnel, c'était aussi lui rendre une part de ce que je lui dois, parce que je pense que, même si évidemment, on n'a sans doute absolument pas conscience de transmettre quand on enseigne, ben, il y a quelque chose de l'ordre de la transmission qui est arrivé jusqu'à moi. Et donc, je me suis parfois questionnée sur, par exemple, le fait que ses descendants soient aux États-Unis, qu'ils soient pas, qu'ils se sentent pas concernés par son parcours et la sauvegarde des éléments qu'on a encore sur lui. Et puis j'ai fini par me dire que sa famille, elle était certainement aussi dans le violoncelle et que j'avais une petite part à opérer là-dedans. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée, par exemple, à sauver, racheter sa correspondance de guerre aux enchères, parce que malheureusement, énormément de ce qui restait de lui a été mis en vente à Drouot au printemps dernier. Et j'ai légué ses lettres à la Bibliothèque nationale pour qu'elle rejoigne les carnets de guerre que sa fille avait légués là-bas. Voilà, c'est des petites choses, mais qui font que on a une chance que ça traverse encore les générations.
Les grands entretiens d'Emmanuel Bertrand, France Musique.
Après le bloc 15, après le violoncelle de guerre, même si ce sont des spectacles que vous donnez toujours, il y a eu d'autres spectacles du théâtre musical. Je danse donc je suis avec Pascal Amoyel et le philosophe Raphaël Enthoven. Et puis, c'est plus récent, une petite histoire de la grande musique et dans la famille Amoyel Bertrand arrive une petite fille, une enfant, Alma, votre fille. Vous avez pensé facilement à inviter votre fille enfant dans votre théâtre musical ?
Bourreau de parents qui font travailler les enfants. Non, en fait, en plus, Alma, on n'a jamais souhaité l'épouser, ni Alma, ni Sarah, qui emboîte le pas de sa grande sœur, puisqu'elle a débuté le violon l'année dernière aussi. Je pense qu'au départ, la musique pour nos filles, c'était vraiment ce qui nous éloignait d'elles dans leur esprit. C'était ce qui faisait qu'on part en tournée l'un ou l'autre, voire les deux en même temps, ce qui est encore pire pour elles, évidemment. Mais malgré tout, il y a quelque chose qui les a touchées. Enfin, puis Alma, elle avait très envie de faire du théâtre, elle nous en parlait depuis longtemps. Alors c'est le hasard qui a généré ce programme-là au départ, parce que Pascal, pour le festival Notes d'automne qu'il dirige ici au Perreux-sur-Marne, avait programmé un spectacle pour les scolaires, donc vraiment pour les classes des écoles du Perreux. Et puis la veille du jour où les programmes devaient être imprimés, il a appris que le groupe qu'il avait programmé s'était trompé, il y avait un quiproquo dans les dates. Bon, après avoir passé la moitié de son carnet d'adresses en revue et sans trouver de spectacle jeune public disponible pour la date en question, il s'est dit, bon, on va peut-être faire quelque chose maison. Et il se trouve qu'Alma venait tout juste de terminer un stage de théâtre, première expérience, où on avait été vraiment très étonnés de l'assurance et du naturel qu'elle avait sur les planches. Et puis Pascal avait écrit ce livre une quinzaine d'années auparavant, Une petite histoire de la grande musique, qui était donc bien avant qu'on soit parents, qui était la musique racontée aux enfants. Alors il s'est dit, je vais l'adapter. Il en a parlé avec Alma, qui a fait des bonds de joie, en disant, oui, je vais le faire, je vais le faire. Et on a commencé à discuter très naturellement du sujet. En fait, au final, ça n'a plus grand-chose à voir avec le livre qui était à l'origine, puisque Pascal a intégré les propos d'Alma dans le programme, parce que c'était croustillant que d'entendre ses réactions. Et puis, en réalité, ce spectacle-là, c'est vraiment la mise en scène de notre quotidien. C'est les vraies questions qu'elle nous a posées sur le métier, sur la musique. Et puis, c'est aussi, pour les plus jeunes, la conscience qu'un instrument, ça se travaille tous les jours, et que donc, puisqu'elle a choisi de faire du violon, son violon, il faut qu'elle le travaille. Et là, on passe de l'autre côté de la barrière en essayant de la mettre au travail. Voilà. Alors, ça crée un moment, un spectacle d'une heure, qui est plein de bonne humeur, et les gens viennent nous voir en famille. En général, les enfants repartent en disant qu'ils veulent faire de la musique, ce qui est pour nous la plus jolie des récompenses. Et puis, c'est une révision qui est pas toujours inutile pour ceux qui savent et qui est très pédagogique pour ceux qui ne savent pas, puisque en une heure, on passe de la préhistoire à la musique de nos jours. C'est très synthétique, mais mais c'est assez festif. Je dois dire qu'on se régale. Et puis, Sarah nous a rejoint, parce qu'en général, elle fait le final. Et il est évidemment pas à l'heure de la faire jouer, parce qu'elle débute, mais on l'a quand même intégrée symboliquement à la fin du spectacle, parce que elle est très très motivée pour participer et que c'était mieux qu'on soit tous les quatre.
Et ce fut la naissance du solfège.
Oh non, pas le solfège.
Le solfège, Alma, ça sert seulement à se souvenir de
ça. Oui, ça c'est quand même important.
Est-ce que tu préférerais tout apprendre par cœur?
Oui, tu pourrais apprendre à chanter comme les troubadours à l'époque.
Il y avait beaucoup de chanteurs de Lyon, tu sais, quand il se fait libérer de prison.
Bien sûr, c'est extraordinaire. Alors il chantait dans la rue, il faisait des buts comme ça, et dans la fête, c'était extraordinaire.
Emmanuel Bertrand, ce théâtre musical, est-ce que ça vous a coupé de certains milieux, de certains circuits ou de certains musiciens qui vous regardent bizarrement?
Alors, j'ai pas ce sentiment-là. Je pense qu'il y a des gens qui sont pas sensibilisés à ce type de projet, c'est certain. Parce qu'il y a aussi des musiciens pour qui la musique pure reste l'essence des choses et je le conçois très bien. Mais disons que moi, je suis restée vraiment dans les deux domaines parallèlement. Il y a des transversalités, des passerelles, mais je, contrairement à Pascal qui a vraiment emmené son public sur des spectacles qui sont à la fois des concerts mais qui sont vraiment du théâtre également avec la même exigence sur les deux dimensions, j'ai continué à faire beaucoup de musique de chambre, du concerto et peut-être plus de choses à côté, tout simplement parce que ces projets-là ne donnent pas toute la mesure du répertoire que je veux jouer. La plupart du temps, je suis seule, avec un violoncelle seul, donc c'est un répertoire spécifique et limité. Donc j'ai vraiment besoin de cette complémentarité. Je crois vraiment que ça nous permet de toucher un public autre, et c'est là aussi un des enjeux, parce que ce public qui est plus sensible au fait qu'on lui raconte une histoire, une fois qu'on a créé le lien entre l'histoire et la musique, est potentiellement aussi une part du public qui est sensible à la musique seule. Donc c'est un gage de renouvellement et d'ouverture. Et puis c'est vrai que jouer pour un public non spécialisé, parce que du coup c'est très mixte, on a à la fois des gens qui sont très mélomanes, mais on a aussi un public nouveau, souvent peut-être aussi plus jeune, comme le public du théâtre, ou parce qu'il y a certaines vertus pédagogiques des gens vraiment plus jeunes, eh bien, c'est pour nous aussi un espoir que de les emmener sur d'autres chemins qui soient plus exclusivement musicaux.
Et vos étudiants, vous leur expliquez que c'est important de ne pas avoir de frontières entre les arts? Ils le comprennent?
Je pense qu'implicitement, ils le comprennent parce que s'ils ont choisi de venir travailler avec moi, ils sont conscients de cet aspect-là. Tout récemment, j'ai eu une étudiante qui s'est inscrite en doctorat au Conservatoire supérieur. Normalement, j'y enseigne la musique de chambre, mais en doctorat, ça, c'est des projets particuliers. Et donc, elle a fait ce choix de faire son doctorat dans ma classe, justement parce qu'elle souhaite développer des projets qui sortent de l'ordinaire et qui intègrent d'autres aspects scéniques. Et ça m'a fait grand plaisir parce qu'il y a beaucoup, beaucoup à écrire, beaucoup à créer dans ce domaine-là. Et de voir que sur la génération suivante, il y a cet appétit-là aussi. Je pense que ça ouvre d'autres voies et que c'est plein d'espoir.
Thank you.
Vous avez parlé de la sortie prochaine, enfin, des suites pour violoncelle de Jean-Sébastien Bach sur violoncelle baroque. Quels sont, Emmanuel Bertrand, vos désirs, vos rêves aujourd'hui à 45 ans, puisque vous nous dites chaque jour votre date de naissance?
Alors, si j'ai retiré un enseignement des deux décennies passées, c'est que je ne sais jamais ce qui m'attend. Il y a toujours des surprises, des rencontres, des choses complètement inattendues. Donc, évidemment, je reste très ouverte pour ces éventualités. J'ai eu un très beau cadeau récemment, Robin Renucci, qui m'a fait la proposition d'un rôle pour les Tréteaux de France. Ça, c'est... Voilà, il faut que je me pince quand...
Sans violoncelle.
Avec violoncelle, mais pas seulement. Des choses comme ça qui arrivent, qui sont tellement enthousiasmantes et qui sont la perspective de tant d'enrichissement à travers les rencontres et les jeux des partenaires. Parce qu'évidemment, là, les comédiens, ça... on a fait déjà une lecture, j'étais complètement dans mes petits souliers, parce que malgré tout, il faut quand même que je dise mon texte aussi. Mais je vais apprendre énormément de cette expérience-là, et c'est une chance que de pouvoir faire le lien, justement, entre ma pratique de musicienne, d'instrumentiste. Voilà, c'est des choses qui sont un peu conçues sur mesure pour que ces deux dimensions se rejoignent. Et donc, un projet comme celui-ci, je ne l'aurais même pas espéré il y a quelques années, alors je ne sais pas ce qui va se passer par la suite.
Petite fille, ça n'est peut-être pas un petit quart de violoncelle qu'on vous avait mis entre les mains. Quelle aurait pu être votre vie, une vie d'artiste, une autre vie? C'est quelque chose auquel vous pensez parfois?
Oui, j'y pense parce que je me dis que j'aurais pu passer à côté et que j'aurais simplement pas mesuré à côté de quoi j'étais passée, mais ce serait triste. J'espère, je voudrais pouvoir croire que j'aurais eu suffisamment de détermination pour rejoindre une voie semblable à celle-là, mais je ne le saurais jamais. Voilà, il y a des questions de destin. Alors, bien sûr, les rencontres, il faut savoir aussi saisir l'importance qu'elles ont et prendre la voie qui s'ouvre. Il n'y a certainement pas que une question de hasard ou de chance. Mais malgré tout, je suis très reconnaissante envers la vie, envers mes parents, ma famille, d'avoir rendu cela possible. Parce qu'être musicien, c'est un métier difficile, c'est beaucoup de doutes, beaucoup de remises en question, beaucoup de risques aussi à chaque concert. Il y a toutes ces dimensions d'épreuves, d'affronter la tension. Mais c'est un grand privilège parce qu'on fait un métier qui nous pousse, qui nous porte, qui nous fait vibrer, qui nous permet aussi de vivre des choses très fortes avec le public ou entre musiciens. Et ce n'est pas banal.
Thank you. Romance de Max Reger, Emmanuel Bertrand au violoncelle, Pascal Amoyel au piano. Yvan Turc était à la prise de son, Olivier Dupré au mixage, attaché de production Flora Sternadel, réalisation Perrine Mingui. Toute cette série des grands entretiens d'Emmanuel Bertrand est à réécouter sur francemusique.fr.
France Musique. À réécouter sur francemusique.fr.